Alors le Robin Bass, c'est une idée très ancienne en fait, qui date déjà de l'époque des Lumières. Et en fait, c'est l'idée que chaque citoyen a un droit à avoir un revenu. Et donc ce revenu, dans la conception du Robin Bass, devrait être sans condition. Il devrait être égal pour tous, pour tous les citoyens. Il devrait être attribué sans condition de travail, de contrôle de revenus, et attribué de la naissance à la mort. Donc, comme je disais, c'est une idée très ancienne, mais qui aujourd'hui en Europe commence à rassembler beaucoup de gens derrière cette idée, notamment en Allemagne, puisque l'idée est très connue maintenant, mais aussi en France et en Suisse, par exemple.
Pour bien expliquer ce que c'est le revenu de base, ça serait un revenu plus important que les minima sociaux actuels, qui permettrait donc à chacun de vivre, versé à tout le monde de zéro jusqu'à la fin de sa vie, et qui serait aussi cumulable avec le salaire d'une activité professionnelle, c'est ça?
Oui, voilà, tout à fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que comme le revenu de base est inconditionnel, on le donne vraiment à tout le monde par défaut. On n'exclut personne de ce système, donc clairement, même les riches vont le toucher. Mais alors, il faut bien préciser, bien sûr, que comme les riches payent plus d'impôts via les différentes taxations, que ce soit même la TVA, par exemple, hein, du coup, c'est neutre. Financièrement, pour quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, c'est absolument neutre. On lui donne un revenu de base au début du mois, il en paye le triple ou beaucoup plus à la fin du mois.
Qu'est-ce qui, dans l'organisation actuelle, fait que cette idée revient au goût du jour, selon vous?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui justement font convergence. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, il y a le fait qu'on est dans une économie qui n'a plus de plein emploi depuis 20-30 ans. Et qu'en fait, on est en train de se rendre compte que le travail en soi n'est pas seulement le travail salarié, j'entends, n'est pas le seul facteur de création de richesse, mais on a aussi toute l'économie non marchande qui contribue finalement à la création de richesse. Et on est aussi dans la fin du paradigme de la croissance, puisque finalement la croissance stagne, et puis pour autant, on n'a jamais été aussi riche. Et donc, dans ce contexte-là, les inégalités qu'on voit aujourd'hui dans la société, finalement, elles n'ont pas de justification économique, c'est-à-dire qu'on a toutes les richesses qu'il faut, c'est simplement une question de répartition. Et j'en arrive un peu à une autre raison qui justifie aussi le revenu de base, c'est qu'on a donc des systèmes aujourd'hui quand même de protection sociale, etc., mais qui sont très lourds, très bureaucratiques. On va vers une tendance où on contrôle les gens pour vérifier qu'ils sont pauvres avant de les aider, etc. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'on pourrait totalement le simplifier grâce au revenu de base, c'est-à-dire en réunissant énormément des systèmes de protection actuels, on pourrait transférer les budgets qui sont redistribués sous la forme d'un revenu de base. Et ce serait beaucoup plus simple, puisque tout le monde le toucherait automatiquement sans avoir de formulaire à remplir, etc. Et donc là, on est dans la justification un peu libérale du concept, mais qui serait finalement que pour finalement réduire le poids des États, réduire les déficits publics, on pourrait aussi faire des économies simplement en simplifiant nos systèmes de protection sociale.
Pour mettre en œuvre ce revenu de base, il faut un système de financement, il faut produire des richesses aussi. Comment organiser ce revenu de base par le biais de l'État et de la redistribution par l'impôt?
Oui, alors comme je le disais, effectivement, on redistribue déjà en France, par exemple, entre 30 et 40% du PIB, il est redistribué par l'impôt et puis par les différents systèmes de sécurité et protection sociale. Donc on pourrait déjà simplifier en réunissant tous ces systèmes en un revenu de base. Donc oui, effectivement, ça pourrait passer par l'impôt. Mais il y a aussi d'autres théories qui finalement sont dans la théorie de la pré-distribution de richesse. C'est-à-dire qu'avant même de taxer, on pourrait très bien, par exemple, créer de la monnaie. Au lieu que la monnaie soit créée sous forme de crédit bancaire, on pourrait très bien la distribuer aux citoyens sous la forme d'une base à l'échelle d'un pays. Donc ça passerait par l'État, mais on pourrait aussi le faire dans une monnaie locale, par exemple. Au niveau du montant, c'est vrai que l'idée de revenu de base, c'est de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de décrocher le revenu d'une activité salariée. Mais après, au niveau du montant, il y a plusieurs manières de l'envisager. On pourrait commencer par exemple, au niveau des prestations actuelles. Par exemple, le RSA, au niveau, on est à 450, 500 euros. On pourrait commencer par un revenu de ce montant-là, qui ne suffit pas pour vivre sans travailler, mais qui permet de simplifier le système actuel. Et puis, petit à petit, on pourrait l'augmenter en fonction des réformes à faire, etc. Donc, il y a plusieurs manières de le mettre en place. Yeah, money. Without money, what would we do? We got a little idea. We see what's going on. They say money is the root of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the bills, to pay the rent, huh? Banks falling, presidents scratching his head, the economy is down, Wall Street about to lose him, I mean, up and down, gas prices up and down, nobody knows what to do. You know what we need, though? Money!
La question derrière le revenu de base, c'est aussi la question du travail. Toute la société capitaliste est basée autour de l'idée de méritocratie, de travail, voilà, on travaille pour gagner de l'argent. Là, si sans travailler, on gagne de l'argent, il y en a qui vont dire, bah voilà, personne ne va aller travailler, produire de la richesse.
Oui, alors effectivement, le revenu de base, il a cette force de questionner notre rapport au travail et de questionner finalement l'utilité sociale des activités aujourd'hui salariées. Et en fait, alors on pourrait dire effectivement les gens vont arrêter de travailler, etc. Mais il faut déjà rappeler une chose, comme le disent certains économistes, notamment chez Attac, si l'économie non marchande s'arrêtait du jour au lendemain, on aurait probablement une guerre civile en 7 jours. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a vraiment tendance à l'oublier, mais beaucoup de richesses produites sont le fruit d'activités bénévoles, non marchandes, qui sont totalement hors circuit des transactions monétaires. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que le PIB, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, pour quand même répondre à la question, et si les gens s'arrêtaient de travailler, il y a plusieurs réponses. Déjà, on peut estimer que certaines activités peuvent être automatisées. C'est le cas même dans le cas typique qu'on évoque souvent, le cas des poubelles. Il y a des camions qui sont capables de ramasser les poubelles automatiquement. Et ça nécessite une seule personne dans un camion plutôt que trois. Ça, c'est une réponse. On peut aussi estimer que certaines tâches, finalement, elles sont pénibles, elles sont dégradantes, elles sont pas bien payées. Bah, peut-être que ces tâches, il faudrait les arrêter. Je pense notamment au cas des call centers, par exemple, de ces personnes qui sont chargées de vendre je ne sais pas quelle fenêtre PVC à des grand-mères un peu naïves. Voilà. Et puis aussi, je crois que dans cette question de « et si les autres s'arrêtaient de travailler ?», je crois qu'il faut aussi réfléchir un peu à soi-même. C'est-à-dire que souvent, les gens nous disent « les autres vont s'arrêter de travailler, mais eux ?» n'arrêterait pas de travailler. Il y a des études, notamment en Allemagne, qui l'ont montré, c'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui pensent que les autres vont s'arrêter de travailler s'ils avaient un revenu de base, et par contre, quand on leur pose la question à eux, seulement 10% des gens avouent que oui, ils arrêteront de travailler demain et ils feront la sieste. Donc je crois que finalement, derrière cette question, on voit vraiment un peu la perversité de notre perception des autres dans cette société, et on a vraiment... Je pense qu'on est dans une société où tout le monde se soupçonne mutuellement, alors qu'en fait, à l'échelle d'un individu, on est tous comme les autres, on a tous envie d'avoir une activité, on veut pas rester chez soi à rien faire. Et en fait, d'ailleurs, on pourrait, finalement, est-ce que c'est possible d'ailleurs de ne rien faire de sa vie? Est-ce que c'est humainement, psychologiquement possible? Donc voilà, je pense que vraiment, ça repose simplement la question de qu'est-ce que moi je veux faire comme travail, comme activité. Est-ce que mon activité est utile et comment je voudrais la rendre utile? Je crois que c'est toutes ces questions-là que pose le revenu de base et c'est plus que nécessaire à l'heure d'aujourd'hui. Je refuse d'être tué à la tâche, affamé au chômage pour cracher du profit. Je préfère de suer sans héo en choisissant pour qui, pourquoi, où et quand et comment que...
On est toujours par téléphone avec Stanislas Jourdan, journaliste et activiste pour le revenu de base inconditionnel en France et l'un des initiateurs du site internet revenudebase.info. Revenu de base, y compris de 0 à 25 ans. Hein. Il faut rappeler que les mineurs, jusqu'à présent, les jeunes, de moins de 25 ans, n'ont pas le droit, sauf cas exceptionnel, il me semble, aux minima sociaux. Donc là, c'est le choix, dès la naissance, d'avoir de l'argent sur son compte en banque.
Alors sur la question des enfants, mais vous avez raison de rappeler qu'en, quand on a moins de 25 ans, on n'a pas le droit d'être pauvre, en gros, en France. Sur la question des mineurs, il y a plusieurs visions. Il y a ceux qui défendent l'idée que c'est un revenu de base parce qu'on est citoyen, donc on aurait un revenu de base total lorsqu'on devient majeur, lorsqu'on vote par exemple, etc. Et puis il y a plutôt l'approche de dire c'est un revenu parce qu'on existe, donc tout être humain y a droit dès sa naissance et au même montant que les adultes. Et puis il y a la position médiane qui dirait on peut donner la moitié aux enfants, ce qui permet de simplifier les systèmes actuels d'allocation familiale, de bourse de rentrée, etc. Et même du quotient familial d'ailleurs, puisqu'on en parle aujourd'hui dans l'actualité. Donc ça vaudrait le coup de quand même donner au moins la moitié aux enfants pour simplifier le système fiscal et social. Et puis il y a aussi une autre proposition qui dirait on pourrait donner le revenu de base aux enfants, mais il serait mis de côté sur un compte. Sur un compte d'épargne, et puis cet argent-là serait donné à la majorité des citoyens, qui leur permettrait de financer des études, de se lancer dans la vie, tout simplement.
Alors, revenu de base, on appelle ça aussi allocation universelle, avec quand même dans les deux expressions la nuance de l'universalité ou pas, quoi. Est-ce qu'un sans-papier a droit au revenu de base? Est-ce qu'un étranger a droit au revenu de base? C'est la question aussi de l'échelle pour mettre en œuvre ce genre de politique.
Oui, alors je crois que sur la question, effectivement, il faut définir un champ. Alors pour moi, le champ, il est clairement la citoyenneté. Alors je dis bien, c'est la citoyenneté au sens philosophique, c'est-à-dire que c'est pas une question de nationalité ou de quoi. Il est question de définir comment on définit les citoyens. C'est quoi? C'est ceux qui sont participent à la vie de la cité. Et donc on peut très bien définir des critères, que ce soit la résidence, l'activité sociale, que ce soit salarié ou autre. Hein. Ou tout simplement toutes les personnes qui habitent sur un territoire. Pour moi, ça me paraît important d'attacher ça à la notion de citoyenneté élargie, c'est-à-dire pas seulement la nationalité. Après, il y a toujours effectivement comment définir une personne qui habite, etc., sans papier, etc. Après, je crois qu'il faut pas non plus se leurrer. Alors, une base ne résout pas tous les problèmes. Et puis, ce sera aussi à la société civile de gérer les cas, dans le cas des sans-papiers par exemple, il peut y avoir d'autres dispositifs d'aide pour ce genre de public, en attendant que soit légalement résident sur le territoire donné.
Alors, le revenu de base, ça peut sembler une utopie à certains, mais pour vous, c'est quelque chose de vraiment très concret et que vous essayez de défendre, y compris auprès des institutions européennes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes démarches entreprises avec votre association, votre groupe politique?
Oui, alors effectivement, on a lancé en coordination avec 15 pays en Europe. On a lancé une initiative citoyenne européenne, donc c'est un nouveau processus qu'a mis en place l'Union européenne l'année dernière, un processus de démocratie participative qui permet aux citoyens de se rassembler et si on récolte 1 million de signatures, on obtiendra une audition au Parlement européen qui va nous permettre de défendre le projet du revenu de base. Et donc l'idée, c'est on demande à la Commission européenne d'étudier la faisabilité de mettre en place des études pilotes pour regarder comment on pourrait mettre en place un revenu de base européen. Et donc pour cela, on est en train de mettre en place une campagne et bientôt tous les citoyens européens vont pouvoir apporter leur signature jusqu'en janvier 2014.
Alors justement, puisque vous parlez d'expérience pilote, est-ce que ça existe déjà quelque part? Est-ce que ça a déjà existé à un moment donné, cette expérience sociale?
Alors, effectivement, il y a eu plusieurs expériences à travers le monde, et puis ça existe aussi sur certaines formes dans des pays aujourd'hui. Alors, dans les expériences phares, il y a les expériences nord-américaines, donc au Canada et aux États-Unis dans les années 70. Plusieurs expériences ont été lancées, notamment par les gouvernements, notamment le gouvernement Nixon, qui était très, très en faveur de ce dispositif. Et ces expériences, en général, montrent que, finalement, les gens ne s'arrêtent pas de travailler parce qu'on leur donne de l'argent. Donc ça, c'était vraiment les résultats phares de ces expériences. Dans le cas de l'expérience canadienne, on a aussi vu qu'il y avait moins d'hospitalisation, moins d'accidents de travail, moins de criminalité. Et sinon, dans les autres cas où le revenu de base existe sous certaines formes, il y a le cas de l'Alaska qui, en fait, distribue les fruits des dividendes de ses rentes pétrolières à tous les citoyens. Bon, c'est une certaine somme de revenu de base puisque, en fait, là, c'est versé annuellement. Donc, ce n'est pas vraiment un revenu, mais dans la logique, on est tout à fait dans l'esprit d'un revenu de base. Et puis, il y a aussi, par exemple, le cas de l'Iran. L'Iran a décidé de remplacer des aides en nature pour l'essence, puisque l'essence est très chère là-bas. Et au lieu de donner de l'essence gratuitement à ses citoyens, ils ont décidé de transformer ça en un versement direct de cash à ses citoyens. Et le gouvernement indien est aussi en train de remplacer ses systèmes d'aide alimentaire et pétrolière par aussi un versement en espèces. Voilà.
Alors Nixon, l'Alaska, l'Iran, c'est pas exactement les berceaux du socialisme. Il y a des différentes perspectives sur de gauche et de droite. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de libéralisme. Des différentes perspectives sur cette idée, cette perspective politique.
Oui, effectivement, je crois que la force du revenu de base, c'est justement ce potentiel de pouvoir rassembler en fait des citoyens et des courants de tous bords. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes arguments pour le défendre. C'est vrai que le gouvernement Nixon voyait ça davantage dans une optique de simplification de l'État, etc. Et puis alors qu'à gauche, on est clairement plus dans une logique de renforcer le pouvoir de force, le pouvoir de négociation des salariés contre les patrons, les employeurs. Mais pour certains aussi, on est tout simplement dans une logique humaniste qui est de dire on est tous des êtres vivants, on n'a même pas choisi de naître et donc il n'y a aucune raison que la société ne nous donne pas dès notre naissance les moyens de participer dans cette société. Donc voilà, on a vraiment différents courants. Il y a aussi le courant écologiste qui voit ça dans une optique de réduction du temps de travail, puisque dans un certain nombre de cas, l'activité finalement humaine est destructrice pour l'environnement, pour la nature. Et comme on est déjà riche, il n'y a peut-être pas besoin de travailler toujours plus. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs courants, pas les mêmes arguments, mais au final, je crois qu'on est quand même, on a une convergence là de différentes idées, de différents courants politiques, et c'est le moment justement de se rassembler de tous les côtés pour exiger qu'il y ait un débat. Peut-être qu'on n'a pas tous la même vision de revenu de base derrière, mais il faut que le débat existe pour qu'on arrive à faire pression sur la classe politique pour arriver à au moins qu'on ait le débat et peut-être enfin mettre en place cette idée.
Stanislas Jourdan, journaliste pour WeShare.net et activiste pour le revenu de base, l'un des initiateurs du site internet revenudebase.info. Alors pour le rencontrer et discuter de ce concept de revenu de base, rendez-vous ce soir à Lille, à la Coroutine, rue Molière, au 8 rue Molière précisément, métro Lille Grand Palais. C'est à 19h en entrée libre. Vous retrouverez bien sûr cette interview sur notre site internet www.radiopfm.com.